raisons qui ont osé s'opposer à cet autoritarisme. Nous sommes ici d'abord pour apporter tout notre soutien, notre solidarité avec des gens qui ont justement résisté, et on pense au lieu-dit, le café associatif à Sainte-Afrique, dont un représentant va s'exprimer tout de suite après. Nous sommes également ici, bon, le lieu-dit, c'est un symbole de la résistance au pass sanitaire, qui a refusé de jouer le rôle d'auxiliaire de police à coup de contrôle de QR code, et nous en sommes vraiment reconnaissants. Nous sommes aussi ici pour apporter notre soutien aux manifestants pacifiques de Millau en mai 2020, verbalisés à coups de surveillance, vidéosurveillance anonyme, avec en arrière-fond une volonté de décourager celles et ceux qui osent encore s'élever contre l'injustice. Et nous sommes ici également pour soutenir les soignants et tous les autres salariés scandaleusement suspendus le 15 septembre en raison de l'obligation vaccinale. Soignants qui étaient hier applaudis et devenus bouc émissaire d'une crise dont nos dirigeants refusent d'assumer la responsabilité de leur défaillance. Ce qui est important, c'est de demander en fait l'abrogation de cette loi dite de sortie d'état d'urgence qui doit normalement expirer le 31 juillet 2022. Et c'est pour là que nous sommes là, c'est pour ça que nous sommes là, pour demander l'abrogation de toutes ces lois sécuritaires, dites sanitaires, mais sécuritaires. Voilà. Passer la parole à Camille.
Bonjour tout le monde, moi je prends la parole donc pour les amendés de Millau. Donc ça tombe bien qu'on fasse cette journée aujourd'hui parce qu'on va avoir bientôt le procès qui va se tenir enfin, donc le 24 mars à Millau, après des reports, tout ça. Et voilà, donc nous en fait au lendemain du, comme vous le savez, pour la plupart vous le savez parce que je vois beaucoup de têtes connues, hein, forcément. Au lendemain du premier confinement, donc on s'est réunis sur la place du Mandarou, voilà, pour soutenir les soignants, pour dénoncer la gestion de la crise par le gouvernement Macron. Et on était voilà, à peu près 150-200 personnes, donc on portait le masque, bien qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune obligation de porter le masque, on gardait les distances, tout ça. Mais il y avait une interdiction de se rassembler à plus de 10 sur la voie publique. Donc interdiction qui a été cassée par le Conseil d'État un mois plus tard. Et donc on s'est rassemblés, on était voilà, masqués, il y en avait qui avaient même des chapeaux, des lunettes, tout ça, donc qui était difficilement reconnaissable. Il y a même une personne qui est venue me voir au bout d'une heure qui m'a dit qu'elle ne m'avait pas reconnue jusque-là. Et puis le 22 mai, on a aussi fait une action donc, sur le marché de Millau, donc pareil pour défendre les soignants, pour dénoncer les lois sécuritaires, la gestion de la crise par le gouvernement Macron. Et 10 jours plus tard, donc on reçoit une cinquantaine d'amendes en tout, voilà, chez nous. Donc c'est vraiment quelque chose auquel on n'était pas encore habitué. Hein. Bon, alors là, depuis maintenant, ils ont habitué beaucoup de gens à faire ce genre de choses, parce qu'entre-temps, il y a eu d'autres villes, d'autres manifestants qui ont pris des amendes comme ça, sans contact. Voilà, on n'a eu aucun échange avec les policiers sur place, il n'y a aucune identité qui a été relevée. Donc la première question, on se demande, mais comment est-ce qu'ils ont pu nous identifier? C'est très étrange. Donc on a pensé aux caméras de vidéosurveillance, on avait vu aussi qu'il y avait donc les RG sur place, mais on n'a eu aucun contact avec eux. Et donc en effet, une fois qu'on a commencé à poser des questions, on a fini par avoir quand même une réponse, c'est que en effet les caméras de vidéosurveillance étaient venues en appui pour reconnaître donc les manifestants. Mais ce qui veut dire aussi derrière, c'est que ben, en fait on est fichés, quoi, en gros. Tout simplement parce qu'on exprime des idées politiques, parce qu'on participe à des manifestations. Donc manifester, se rassembler, exprimer des opinions divergentes est devenu une infraction. Sachant que les caméras de vidéosurveillance, ils ont l'autorisation de les saisir, parce que c'est les caméras de la ville, ils ont l'autorisation de les saisir à la préfecture pour les infractions de la route ou pour des délits graves. Et donc là, ils s'en servent pour reconnaître des manifestants et leur envoyer des amendes. Donc à Millau, c'était pour s'être rassemblés. Donc après, comme le Conseil d'État a cassé cette interdiction de rassemblement, voilà. Par la suite, il y a eu d'autres endroits, où à Vannes, par exemple, plus récemment, en novembre 2021, les manifestants ont reçu des amendes sans contact, comme nous, mais pour non-port du masque, cette fois-ci. Et avec cette affaire, nous avons pu voir les dessous crasses d'un régime autoritaire qui étend ses tentacules pour verrouiller toute contestation. Donc des policiers qui outrepassent une décision de justice, qui remplissent des dizaines de pages de PV avec des descriptifs minutieux et surréalistes. Et des informations qui ne devraient pas s'y trouver du type appartenance à l'ultra-gauche, appartenance à la liste au municipal. Donc les opinions politiques sont ainsi ouvertement criminalisées. C'est une dérive grave et ce n'est que le début. Plusieurs villes dans le cadre d'expérimentation s'équipent de caméras connectées compatibles avec des fonctions de reconnaissance faciale. Donc voilà, c'est pas, on parle de la Chine, on parle d'être complotiste, mais non, là c'est très concret en fait. Hein. Donc il y a des villes comme Nîmes, si vous voulez regarder, il y a des articles qui sont sortis là-dessus parce que Nîmes est très équipée en caméras de vidéosurveillance et puis apparemment ils ont envie d'être à la pointe aussi au passage pour la reconnaissance faciale. Donc restons vigilants et combatifs. Parmi les manifestants verbalisés sans contact à travers la France, il y a des acquittements qui ont été prononcés récemment. Mais combien de personnes ont payé des amendes et ont été poursuivies sans pouvoir se défendre pour non-port du masque, auto-attestation non conforme, participation à une manifestation non déclarée, et cela parce qu'elles étaient isolées, parce qu'elles ne se sont pas imaginées avoir le choix, que seules, elles n'avaient pas les moyens de se battre. Donc notre force a été de rester soudés, de se défendre collectivement et puis d'avoir de bons avocats. C'est pour cela que les journées comme celle-ci, elles sont importantes. Même si, quand je regarde autour de moi, je ne vois pas de nouvelles têtes. Mais on reste ensemble, on reste soudés, on continue à faire du lien. Et on affirme nos positions communes. Et on rappelle à la Macronie que malgré tout ce qui peut se passer en ce moment, nous n'oublierons pas les amendes illégitimes, les lois sécuritaires, les mains amputées, les yeux éborgnés, les millions offerts aux plus riches, la casse des services publics, le mépris. Et quoi d'autre encore? Je suis sûre que vous avez des idées. Quoi d'autre encore, on n'oubliera pas.
Bonjour, dans la continuité du film de François Ruffin, Debout les femmes, que j'ai eu le bonheur de voir cette semaine, je voudrais d'abord exprimer mon salut, mon affection, ma fraternité, mes hommages à toutes les petites mains, les sans diplôme, les travailleurs précaires, celles et ceux qui travaillent dans la grande distribution, dans les services publics, dans les services à la personne, de la santé, les livreurs, les éboueurs, les caissières, les auxiliaires de vie, assistantes d'élèves en difficulté, personnel soignant, mais aussi corps enseignant. Tous ceux qui ont continué à travailler quand tout le reste de la société s'est calé sur son canapé, pétrifié devant sa télé. Merci à eux. Vous avez bossé parfois sans protection, sans trop de considération, toujours pour le même salaire de misère. Toutes ces petites mains, je vous remercie, je vous salue, je vous remercie. Il y en a là. Il y en a là. Voilà, donc moi je suis une soignante, une aide-soignante de 52 ans, je suis une maman en solo aussi avec une étudiante à charge. Soignante donc on a eu un statut formidable de super-héroïne, qu'on n'avait rien demandé. Et puis bon voilà la chute, quoi, on est passé de ça à bouc émissaire et puis avec vraiment une pluie d'insanité et d'accusation. Moi je m'en suis toujours pas remise, hein. Ça fait 6 mois, j'ai un fond dépressif, pendant tout l'été j'ai pleuré, je croisais mes voisins, je pleurais devant ma mère. Enfin, la dignité, elle en a pris un sacré coup. On est passé vraiment de criminels, on nous accusait de demeurer aussi, on comprend rien, mais le vaccin, sauver la société, tu te vaccines pour les autres, mais n'importe quoi. Mais comment on a pu accepter d'entendre toutes ces insanités? Bref, les personnels soignants, comment ils ont morflé? Bon, il n'y a pas que, hein, comme j'ai remercié avant, tout un tas de corps de métier. Et les soignants, c'est vrai qu'on est passé à la lumière, c'était Broadway. Et puis on est passé vraiment au caniveau, ça c'est chaud. Et puis c'est vrai que les soignants, on n'est pas un corps de métier comme les ouvriers habitués à des luttes collectives et on s'est toutes délité. Déjà moi j'ai coupé la vie avec mes collègues. Disons qu'au début d'été, beaucoup de mes collègues voulaient résister, mais il y avait les vacances, les locations, les activités des enfants, les loisirs, et puis perdre le salaire. C'est pas rien, perdre un salaire. Et du coup, alors qu'il fallait juste se serrer les coudes, on n'a pas réussi à avoir une cohésion Et c'est ce qu'on retrouve partout. Donc les soignantes suspendues, celles qui ont vraiment tenu, on est parti à la tête basse. Et en même temps, moi, j'ai coupé les ponts parce que moi, ma vie, elle ne sera jamais plus pareille. Ce n'est pas là du tout la même. Je me suis précarisée. Mais je ne peux pas continuer à parler des enfants et de balades avec mes collègues alors que j'ai été autant maltraitée.
Bravo.
Là, en fait, la société, mes voisins, mes concitoyens, beaucoup de mes proches aussi, mes collègues, sur cette crise, ils m'ont lâché. Mais comme jamais, j'ai lâché un patient. Quoi. Enfin, c'est vraiment, on s'est senti pas abandonné, puisqu'on on assume cette décision, mais c'est incroyable, cette société qui nous a foutu à la poubelle comme ça. Tu perds ton boulot, on m'a croisé, j'ai fait de la grande distribution, enfin, 52 ans, je repars en intérim, j'ai dormi sur le canapé de ma mère, enfin bon, c'est voilà, la réalité de plein de soignants, c'est ça, parce qu'on peut quand même bosser, c'est vrai qu'on n'a pas certainement droit au RST et compagnie, mais en tant que suspendu sur un CDI, on peut bosser en intérim, on peut bosser aussi en CDD. Alors moi, j'étais pas dans la fonction publique, c'est vrai que j'ai... Mais je connais des gens qui étaient sur l'hôpital de Rodez, des kinés notamment, qui étaient en boîte d'intérim, donc il y a moyen de retrouver des revenus. Mais c'est pas notre boulot. Enfin, nous, on nous a jeté de notre boulot, et le boulot de soignant, normalement, c'est quand même des boulots. C'est des boulots de cœur. On fait ça parce qu'on est fait pour. Bon, du coup, voilà, on est balayé, on est précarisé. Bon, je sais pas comment on va faire. Il faut qu'on fasse la paix avec ceux qui sont dans leur canapé. Je sais pas, ça va pas être facile. Il faut faire la paix. Voilà. Merci de votre soutien, parce que vous êtes pas soignant. Merci beaucoup. Merci aux soignants et merci à tous ceux qui les soutiennent.
Bon, on va finir avec le lieu-dit. déjà, j'avais envie de vous dire merci parce que il y avait aussi. Déjà, on n'est pas monté à nombreux de Sainte-Afrique. Je vous expliquerai un peu pourquoi après. Mais voilà, vous êtes là, c'est aussi pour nous soutenir et moi, ça me fait chaud au cœur et puis je transmettrai tout ça aux copains. Donc, merci d'être. Vous présentez le lieu-dit peut-être pour ceux qui n'y sont jamais allés. Alors, je vous invite à venir y faire un tour quand on sera réouvert. C'est pas encore. Donc c'est un bar associatif qui va fêter ses 13 ans d'existence cette année. Donc nous on appelle ça un café culturel associatif parce que en fait c'est pas juste un bar, c'est pas juste un endroit où on va boire des coups et on refait le monde autour du comptoir. C'est aussi avant tout un endroit où les gens se rencontrent, où il y a de la solidarité, où il y a de la vie sociale. Où il y a des ateliers, des débats, des conférences, des concerts, des pièces de théâtre, des ateliers réparation, toute une variété de choses en fonction de ce que les bénévoles proposent. Des repas solidaires aussi, donc ça qu'on a maintenu pendant longtemps. Voilà, il y a aussi un restaurant qui est une entreprise indépendante qui est dans le café associatif. Et au-dessus de ce café existe, donc est loué par l'association du lieu-dit, des locaux qui sont partagés entre 5 associations et maintenant on va louer le deuxième, donc on rajoute et un jour ou l'autre on aura tout l'immeuble parce que nous on lâche rien. Quand la question en fait déjà tout a commencé avec le confinement, donc premier confinement on savait pas trop, je pense un peu comme tout le monde, on était dans l'expectative de qu'est-ce que c'est encore que ce truc là. Assez vite une partie des gens se sont mis à faire un journal. On a fait un petit journal papier qu'on a distribué dans les boîtes aux lettres de Sainte-Afrique. C'était pas une mince affaire, en fait. Il y en a plein, des boîtes aux lettres. Mais voilà, c'était notre première façon de garder du lien, avec aussi les gens qui sont pas forcément connectés, ce qui est le cas de pas mal d'entre nous. Et puis du coup, le confinement se termine. Là, on a fait des saisons culturelles assez folles pendant les deux étés, avoir 3-4 programmations par semaine. Bon, autant vous dire que ça nous a valu aussi de la visite assez récurrente des gendarmes pour du tapage. Voilà. Parce qu'on peut pas faire de musique dans la rue, en fait, parce que c'est du tapage. Hein, d'après les voisins et d'après les forces de police. Et du coup, quand on a vu arriver les autres confinements où on sortait un petit peu de l'expectative, on s'est dit non, mais nous, c'est pas possible. En fait, on arrête les conneries. On a souvent pris comme phrase, qui est une phrase de l'OMS, je ne pensais pas un jour citer l'OMS comme raison de révolte, mais bon, voilà, tout arrive. Donc l'OMS dit que la santé est un état de bien-être total, physique, mental et social. Alors je pense qu'on a oublié le mental et le social à un moment donné dans la définition. Mais nous, on ne l'a pas oublié, Et nous, on s'est dit, en fait, on ne peut pas laisser les gens isolés. Les gens, ils sont en train de péter un plomb. Et nous, ce qu'on voyait, ce n'était pas des gens qui mouraient du Covid, mais c'était des gens qui allaient mourir de dépression, en fait, et d'isolement. Donc, on a dit, nous, on continue à maintenir des choses, même si on est censé être confiné, avoir le bar fermé. Du coup, on a fait des choses hors les murs. On a maintenu la soupe populaire à emporter. Alors, c'était très drôle, hein, parce que c'était à emporter, mais les gens l'emportaient à un mètre. Voilà. Donc, on était tous dans la rue, là, assis, par terre, parce qu'on n'avait pas le droit de mettre de la terrasse. Mais on s'est retrouvé à des moments à peut-être plus 100 personnes assis tous. Alors les flics, ils nous ont suggéré de faire des cercles à la craie au sol de 6 personnes, espacées d'un mètre. Voilà. On fait ouais, bon, non, on va pas faire ça. Donc on l'a fait à différents endroits parce que s'il y a eu tous ces passages-là aussi, des gens qui appelaient les gendarmes pour dénoncer que quand même il y avait des rassemblements de gens et que c'était très dangereux. Voilà. Mais on a quand même eu plutôt la chance d'avoir des gendarmes qui n'étaient pas trop stupides. Qui nous ont proposé d'aller ailleurs, puis encore d'aller ailleurs, parce que quand même là c'était encore trop visible, et qu'ils en avaient marre que les gens appellent, enfin bon bref. En tout cas, on a réussi à maintenir pas mal de choses pendant les autres confinements. Et quand la question du pass sanitaire est arrivée, ça a été... Moi j'avais hyper peur de cette réunion, j'étais là, oh là là, on va se prendre le chou. On a réussi à pas se prendre la tête aussi, hein. Ça fait 2 ans quand même qu'on vit des choses très compliquées, et on est resté une équipe très très soudée au sein du conseil d'administration et des bénévoles qui gravitent autour du lieu-dit. Et là, j'avais peur que ça fasse un peu tout exploser, quoi. En me disant, oh là là, comment est-ce que les gens vont être d'accord qu'on fasse pas le pass, comment ça va se passer? Et en fait, en 5 minutes, mais je vous promets, hein, en 5 minutes, c'était plié. Tout le monde dit, mais non, mais on fera pas de pass sanitaire. Alors, pour des raisons différentes, en fonction des gens, mais c'était, on va dire que la raison qui l'a emporté et qui a fait l'unanimité très très vite, c'est que dans notre charte du lieu-dit, on dit, on ne sera jamais discriminant. C'est-à-dire qu'on ne va pas ne pas accueillir un noir parce qu'il est noir, un juif parce qu'il est juif, un malade du sida parce qu'il a le sida. Enfin, voilà, la non-discrimination, c'est donc l'ouverture à tous et toutes. C'est vraiment une valeur qu'on porte fort au lieu dit. Et du coup, devoir demander aux gens s'ils étaient vaccinés pour pouvoir consommer une bière ou un café, ça nous a paru évident que c'était discriminant et que du coup, ça, on n'allait pas le faire. Et puis bon, après, voilà, il y a des... Moi, par exemple, ce qui m'a aussi beaucoup touché, c'est que c'est hors de question que je sois gendarme, en fait. Si je voulais être gendarme, j'aurais été gendarme. D'accord ? Je ne vais pas devenir un gendarme. C'est mal placé. Enfin, surtout de ma part, ce serait assez drôle. Mais voilà, donc du coup, en 5 minutes, on s'est dit, on ne fera pas le pass et on restera un lieu ouvert à tous et toutes. Et si les gendarmes se pointent en nous demandant le pass, ben, on leur expliquera que non, on ne fait pas le pass et qu'on n'est pas des gendarmes et que les gendarmes, c'est eux et c'est pas nous. Et ben, ils sont passés. On leur a dit ça. Voilà, ils ont remonté à la préfecture. Ils sont quand même passés 9 fois hein, avant de nous faire une fermeture administrative. Donc ça a quand même pris du temps. Mais nous, on a toujours tenu le discours que de toute façon, ils pouvaient passer autant de fois qu'ils voulaient. On ne ferait pas le pass. Donc voilà, on a fini par se prendre une fermeture administrative de 2 semaines. Merci madame la préfète. Voilà, ça c'est la préfecture hein, qui a décidé ça. C'est pas les gendarmes. Bon, on s'y attendait un peu quand même, à un moment donné, qu'ils allaient... peut-être faire quelque chose, quoi. Après, je pense qu'on a aussi le soutien, plus ou moins, même s'il n'est pas affiché, mais un peu caché de la mairie. Donc, ce qui a fait qu'on a quand même réussi à tirer, parce que du coup, la fermeture, on l'a pris au mois de janvier. Donc, on a quand même tenu, et le pass, c'était en été. Hein. Donc, du coup, voilà, on a quand même réussi à tenir tout ce temps-là, à continuer en proposant des activités, à continuer à proposer des coups à boire. Bon, après, on est devenu le bar sans pass. Donc, du coup, on a récupéré toute une... partie de Saint-Afrique, de gens qui se bourrent la gueule, on va dire, à longueur de journée, c'était moins agréable. Parce que du coup, bah, c'est pas des gens qui sont dans les valeurs du lieu-dit, et donc on s'est retrouvé avec des situations compliquées, notamment de relations patriarcales pas chouettes du tout. Voilà, donc ça, c'est des questions aussi qu'on a, enfin, qu'il faut qu'on se pose avant la réouverture. Donc nous, on a appelé à faire une grosse mobilisation, c'était cool, on était plus de 300 à Saint-Afrique, là, suite à cette décision de fermeture administrative. Parce que c'est pas la question que de fermer 2 semaines, en fait. Nous, la question, elle est de fermer tout le temps, puisque comme on a dit, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, en fait, le pass, il n'est pas annulé. Ça peut ressortir à tout moment, cette connerie-là. Et donc, du coup, en fait, c'est nous aussi, notre ouverture, elle est suspendue aux décisions du gouvernement. Et du coup, en fait, ça se trouve, dans quelques temps, je ne sais pas dans combien de temps, petit à petit, tous les bars, cafés associatifs qui existent en France, parce qu'il y en a beaucoup, ben là, je vais au parleur à Villefranche tout à l'heure, vont être concernés par ces fermetures-là, et un jour ou l'autre, ça se trouve, il n'y aura plus de bars ou de cafés associatifs dans lesquels les gens s'en comptent, dans lesquels les gens débattent, dans lesquels les gens font preuve de solidarité, dans lesquels les gens construisent du lien social. Parce qu'en fait, je crois que tout simplement, ce gouvernement, il a bien compris que nous interdire de nous rassembler et fermer tous les espaces où on peut se retrouver et se rassembler, ben, c'est une belle façon de bousiller les luttes et de nous empêcher de nous organiser pour lutter. Voilà, il y a aussi ça qui plane pas au nez, quoi. Voilà, c'est pas la question du café du lieu-dit en particulier, c'est une question bien plus générale, c'est une question de tous ces espaces-là. Et voilà, ça, c'est clairement aussi pour ça qu'aujourd'hui on est peu nombreux de Sainte-Afrique. C'est parce qu'en fait, si le lieu-dit était ouvert, on se serait retrouvés, on aurait flyé, on en aurait discuté et on serait montré à bien plus nombreux. Et en fait, comme là, on n'arrive plus à se retrouver et à... En fait, c'est l'endroit où on se retrouve, quoi. C'est l'endroit où on se retrouve et on s'organise. Et comme cet espace-là, eh ben, on l'a plus, mais on a vachement plus de mal à s'organiser. Donc, bon, on va réouvrir hein, sans doute là. Voilà. On a une réunion lundi qui, à mon avis, va décider de la réouverture. Voilà. Puis on a, faut dire aussi que quand on a appris la, enfin quand on a reçu donc la fermeture administrative, c'était assez chouette encore une fois dans l'équipe. Voilà, il n'y a pas eu de prise de tête en fait. C'était clair que ben voilà, on a poussé notre truc jusqu'au bout. On l'a fait, on le regrette pas. Maintenant on ferme, ça va nous reposer un peu parce que du coup on n'a pas en dehors des confinements en fait, on n'a pas pris de vacances les bénévoles. Et comme on donnait le bénévolat, c'est épuisant. Surtout à faire le ménage et à gérer des gens bourrés. Du coup, voilà, ça nous a aussi permis de nous poser. Puis on s'est dit qu'on avait pas mal de questions à réfléchir en, au-delà des questions du pass, de qu'est-ce qu'on avait envie. Donc ça nous donne le temps de réfléchir un petit peu sur vers où on veut aller, on va dire, dans les 10 prochaines années. On essaye de voir un peu sur du temps long. Donc voilà, avec toutes ces problématiques des espaces de rencontre qui petit à petit sont menacés par soi-disant des lois sanitaires, ouais, plutôt des lois sécuritaires. Et puis après, le problème qu'on a eu, par contre, c'est le restaurant. Du coup, l'entreprise indépendante qui a aussi été fermée. Et ça, c'était un peu plus gênant parce qu'elle, elle y gagne sa vie. Nous, on c'est pas très grave d'être fermé. Il y a quoi, le loyer à payer. Enfin, voilà, c'est pas... On s'en sort, on a un peu de sous de côté. C'est pas dramatique. Mais pour elle, ça a été beaucoup plus compliqué. Et puis en plus, elle, pendant la période de fermeture, on a eu un décès d'une personne qui habitait juste au-dessus du lieu-dit. On a eu une autre personne qui a fait un AVC. Enfin, et c'était des personnes qui étaient fragiles et qui nous ont remercié je sais pas combien de fois que le lieu-dit reste ouvert parce que c'était vraiment l'endroit où elles avaient une vie sociale. Et la fermeture, on l'a vu, hein, chez des personnes, vraiment, ça a eu des conséquences graves. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on réouvre assez rapidement parce qu'on ne peut pas laisser ces personnes-là toutes seules chez elles à déprimer. Voilà, je conclurai un petit peu là-dessus peut-être donc en rappelant qu'il faut investir, il faut construire, il faut inventer, il faut des espaces dans lesquels les gens se retrouvent, il faut des espaces dans lesquels on maintient la vie sociale, il faut des espaces dans lesquels on s'organise, dans lesquels on lutte. Et je vous invite du coup tous à monter chez vous un café à saut ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, ces espaces-là qui permettent peut-être aux gens de sortir de leur canapé aussi, pour des fois aller voir un film. On arrive à attraper des gens, à sortir les gens de leur canapé par des concerts ou des choses comme ça. C'est un bon moyen pour choper ces personnes-là. Et voilà, plus on aura, plus on se retrouvera et plus peut-être on s'organisera pour éviter que le monde vers lequel on sent qu'on va, et ben qu'on n'y aille pas, qu'on prenne notre chemin. Voilà.
Merci.
C'est à vous.
Non, mais le drapeau, je l'ai mis là parce que on est à côté de la plaque de Jean Moulin. Et tout ce qui vient d'être dit par rapport à la délation et tout ça, j'ai envie de dire à Jean Moulin, tu peux revenir parce que les fachos sont de retour. Et avec la délation, les vichistes se sont réveillés. Et quand je dis les fachos sont de retour, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a l'extrême droite, bien sûr, Zemmour et Le Pen, mais aussi la droite extrême avec Macron et Pécresse.
Oui, bonjour tout le monde. Voilà, donc dernièrement j'ai écouté Jérôme Rodriguez, je suis complètement d'accord avec lui. Il faut aussi parler de tout ce qui se passe en ce moment au niveau des augmentations. Dernièrement, donc dans la semaine, il y a eu sur 2 jours, 2 fois 6 centimes d'augmentation sur le carburant en 2 jours, et puis personne ne dit rien. On va attendre peut-être que le carburant soit à 5 euros le litre, peut-être pour que ceux que j'appelle les râleurs de canapé sortent de chez eux. Voilà, je les appelle comme ça. J'espère qu'ils vont bouger. Le mouvement des Gilets jaunes donc, a démarré en 2018 et il est parti justement de cette augmentation des carburants. Et là, on ne comprend plus rien. Quoi. Les gens ne disent rien, c'est normal. On fait le plein. Voilà, un pain qui coûtait 50 euros, maintenant il coûte 70, 80 euros. Voilà ce que je voulais dire.
Non, mais le drapeau, je l'ai mis là parce que on est à côté de la plaque de Jean Moulin. Et tout ce qui vient d'être dit par rapport à la délation et tout ça, j'ai envie de dire à Jean Moulin, tu peux revenir parce que les fachos sont de retour. Et avec la délation, les vichistes se sont réveillés. Et quand je dis les fachos sont de retour, ça veut dire qu'aujourd'hui il y a l'extrême droite, bien sûr, Zemmour et Le Pen, mais aussi la droite extrême avec Macron et Pécresse.
De liberté et de solidarité, de non-discrimination. Aujourd'hui, mettre en pratique ces valeurs-là, c'est être dans l'illégalité. Mettre à disposition de toutes et tous un point internet gratuit, une photocopieuse à très bas coût, des vêtements à prix libre, des livres peu chers, un espace de gratuité, un atelier de réparation, des événements d'éducation populaire et d'animation culturelle, c'est être dans l'illégalité. Le tout est de rester discret, de faire profil bas. Mais que se passe-t-il tandis que nous baissons les yeux? Contrôler les usagers, nos bénévoles, et annoncer à celles et ceux qui ne jouissent pas d'un schéma vaccinal complet qu'ils ne passeront plus la porte est devenu une norme à laquelle nous ne nous résoudrons jamais. Ce que le pouvoir ne pardonne pas au lieu dit, c'est d'avoir assumé ses positions, d'avoir fait savoir que chacun pouvait entrer librement, de n'avoir pas annulé les concerts et événements, d'avoir dit aux gendarmes que le café ne contrôlait pas le pass. Nous, organisation aveyronnaise, soutenons les amendements de mai de Millau qui ont été verbalisés à la suite de la manifestation du 12 mai 2020 sur la base de vidéosurveillance sans qu'aucune intervention policière n'ait eu lieu. Cette criminalisation des manifestants. Il vaut mieux en rire, hein, parce qu'ils nous emmerdent tellement, tous ces connards-là.
C'est pas écrit, ça, il n'y avait pas de virgule.
C'est pas écrit, c'est pas dans le texte. Hein, ça sera pas envoyé à madame la préfète, mais si elle nous écoute, à bon entendeur. Hein. Cette criminalisation des manifestants vise à maintenir toutes les résistances dans le silence.
Coluche, reviens.
Et à décourager toute critique du modèle dominant. Ce jour-là, 150 personnes se sont rassemblées pour défendre la liberté de manifester et dénoncer notamment une logique du profit à tout prix, destructrice de notre société. Exiger des moyens pour nos hôpitaux publics et le personnel soignant, revendiquer un monde d'après plus équitable, plus social et plus écologique, ces revendications découlent de nos droits les plus fondamentaux. Nous, organisation aveyronnaise, soutenons les soignants, soignantes, et toutes les salariés, salariées, violemment suspendues, le 15 septembre 2021, suite à l'obligation vaccinale. Les soignants et soignantes, hier applaudis et applaudieux, aujourd'hui précarisés et marginalisés, sont devenus des boucs émissaires sur lesquels nos dirigeants cherchent à faire porter la responsabilité de la crise. Mais n'est-ce pas, somme toute, cohérent avec leur politique de casse de l'hôpital public à coup de restrictions budgétaires? Pour petit rappel, les plans d'économie sur l'hôpital successifs, c'était 8 milliards, je crois, et le Covid, ça a coûté 280 milliards, je crois qu'il en coûte, alors. Quand on sait économiser comme ça, on ferait mieux de rester couché le matin. Sinon, on faisait comme ça, ça fait longtemps qu'on serait ruiné.
Ouais.
Nous dénonçons fermement le pass vaccinal, car c'est une attaque sans précédent contre les droits fondamentaux de la population de ce pays, réduite à accéder à des lieux et à des activités en fonction de son statut sanitaire. Son efficacité pour limiter la propagation de l'épidémie n'a toujours pas été démontrée par le gouvernement, comme vient de le rappeler la CNIL dans son quatrième avis adressé au Parlement. Cette politique fondée soi-disant sur l'urgence sanitaire est totalement incohérente puisqu'elle continue à supprimer des lits et à fermer des hôpitaux. Tout en contraignant la vaccination, le pass est en réalité bien utile à nos gouvernants pour fracturer la société entre vaccinés et non vaccinés, affaiblir notre résistance collective face à la casse des services publics et aux mauvais coups qui se multiplient. Assurance chômage, menace de report de l'âge légal de départ en retraite, etc. Nous accoutumer au contrôle d'identité permanent et à une technosurveillance de la population qui transforme déjà nombre d'entre nous en auxiliaires de police pour vérifier des QR codes et pouvoir resservir lors des prochaines crises sociales, climatiques, épidémiologiques. Nous ne sommes pas opposés par principe à la vaccination, mais condamnons sans appel l'obligation vaccinale. On ne peut imposer la vaccination par la coercition, l'infantilisation, la carotte et le bâton. La transparence et le débat démocratique doivent permettre à chacun de se forger un avis éclairé.
Nous demandons la levée des sanctions contre le café culturel associatif Le Lieu-dit à Saint-Affrique et contre tous les cafés culturels associatifs. Je rajoute. Oui. La levée des poursuites contre les amendés de mai de Millau. Oui. La levée et des d'ailleurs... sanctions contre les salariés et soignants suspendus et la réintégration dans leurs fonctions. Oui. Le retrait des lois du 5 août 2021 et du 22 janvier 2022 qui étendent le pass sanitaire vaccinal et instaurent la vaccination obligatoire à certaines professions. Oui. Oui. La levée des brevets sur les vaccins, tests et traitements. Oui. La levée de l'état d'urgence sanitaire.
Oui. De l'état d'urgence, ouais, parce que le sécuritaire, il n'est pas mieux.
Une politique sanitaire transparente et démocratique pour et avec la population.
Exact.
Nous renouvelons notre demande de rendez-vous afin d'échanger avec vous, c'est-à-dire Madame la Préfète, sur ces différents points et en tant que représentante de l'État. Nous espérons que vous ferez remonter nos inquiétudes. Le signataire Attaque Aveyron, Confédération Paysanne de l'Aveyron, Union Syndicale Solidaire Aveyron, la France Insoumise Aveyron, les Faucheurs Volontaires Aveyron, le collectif du Vallon d'information sur les objets connectés et champs électromagnétiques artificiels, ça veut dire sonner dans la merde, quand on voit le... collectif de réflexion citoyenne sur la vidéosurveillance à Marcillac-Vallon, collectif citoyen du pays saint-africain, association DDD, les citoyens alerte du 12, les jeudis en question et le lieu-dit café associatif et culturel.
Moi, j'étais en train de me dire, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que ce qu'on fabrique au lieu-dit aussi, c'est prendre soin. Et moi, j'ai envie de finir sur un truc aussi un peu positif, de retrouver déjà du soin pour nous-mêmes, mais aussi de retrouver le temps de prendre soin des autres, de prendre réellement soin des autres. Et il ne faut pas qu'on oublie ça. Et je pense que ça, il faut qu'on s'y accroche, parce que ça, ils ne pourront jamais nous l'enlever. Notre capacité entre nous à prendre soin de nous et des autres.
Ah, je dirais un truc un peu aussi au niveau de, pour la conf, parce qu'on m'a fait lire la lettre pour tout le monde là. Mais, la conf, on a aussi des choses à dire.
Ah bon ?
Ouais, ouais. Notamment qu'effectivement, ce pass, on n'est pas dupe, c'est suspendu. C'est suspendu, pourquoi ? Parce qu'ils veulent le réutiliser, enfin, bon, ça a déjà été dit forcément. ils veulent le réutiliser, on n'est pas dupes. Hein. Ils vont s'en resservir à la moindre occasion pour pouvoir contrôler tout ce qu'ils ont fait pendant les deux ans du Covid, faire baisser les mobilisations, faire baisser les réunions, que les gens ne se retrouvent plus, ne se parlent plus, ne s'embrassent plus, ne discutent plus, ne boivent pas de coups ensemble, ne mangent pas au restaurant, etc. Donc ça, c'est inacceptable. Ça va évidemment à l'encontre de ce qu'on pense à la Confédération Paysanne. C'est-à-dire on se bat pour un monde solidaire, et vous aussi. Et pour ça qu'on était à la SAM il y a deux jours, par exemple. Et effectivement, cette société qu'on nous annonce, là, qu'on nous prévoit, c'est moi, personnellement, je ne me résoudrai jamais. Et je dis jamais, c'est jamais. Et pour finir sur quelque chose de positif, c'est ça, c'est que tous individuellement, peut-être qu'il y en a qui ont perdu la ciboule, parce qu'il faut dire qu'ils ont été mis quand même soumis à un matraquage depuis deux ans, de la part des médias qui sont fortement complices quand même de ce qui nous arrive aujourd'hui. Je ne parle pas de tous les médias, hein, je ne parle pas de Valent Payet évidemment. Hein. Vous avez compris ceux auxquels je faisais référence, hein, les CNews et compagnie, là, qui fascisent d'ailleurs le débat.
au passage, qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans la merde dans laquelle on est, avec un horizon proche assez, assez flippant effectivement. Mais tous individuellement, on peut commencer, on peut continuer pardon, à ne pas se soumettre, à ne pas accepter ce monde tel qu'on veut nous le faire accepter, et en parler autour de nous pour faire changer un petit peu la façon de voir les choses, quoi. Remettre ces valeurs qui aujourd'hui ont été criminalisées, comme on disait tout à l'heure, au centre du débat. Voilà, merci beaucoup et tout le monde d'être venu.